Bonjour à toutes et à tous. Et en tout cas, bienvenue à chacun d'entre vous, hein. Je tiens à le mentionner, surtout les personnes qui sont en visite. Je vois quelques têtes que je connais qui sont là de passage. Bienvenue à vous en particulier. Et puis aussi pour les personnes qui viennent pour la première fois, eh bien, nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Alors, qui a bien dormi la nuit dernière? Parce que hier soir, concernant Damaris et moi, nous n'avons pas idéalement dormi. Alors que le PSG marquait but sur but, certains ne se sont pas retenus d'exprimer leur liesse en bas de chez nous. Et avant le match, j'ai été marqué par l'emploi du verbe convoiter dans la bouche des journalistes. Tel journaliste nous rappelait à la télé combien cette coupe que vous voyez là, cette coupe de la Ligue des Champions, était convoitée. Une autre a dit que c'était même l'une des coupes les plus convoitées. Dans un registre sportif, eh bien, nous comprenons que cela signifie que les deux équipes en lice vont se battre, vont tout faire pour avoir ce trophée qui récompensera le meilleur. Et il n'est sans doute pas anodin d'employer, même dans ce registre-là, le verbe convoiter. Après plusieurs semaines sur les 10 commandements, eh bien, nous arrivons au dernier de la liste. Et comme ceux qui précèdent, eh bien, ce commandement s'exprime à la deuxième personne et s'exprime à la forme négative. Tu ne convoiteras pas. Ce 10e commandement renvoie directement à ce qui se passe dans le cœur, ce qui se passe dans les pensées, dans les motivations. Et l'interdit porte sur la convoitise. Alors je vous propose pendant quelques minutes l'exercice suivant. Vous allez pouvoir vous entretenir les uns avec les autres, avec vos voisins, de pouvoir me réfléchir à une définition de ce qu'on entend par convoitise. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous laisse, voilà, 2 minutes, disons, pour en discuter, vous concerter entre vous, et ensuite j'écouterai vos propositions. Allez, encore quelques secondes, je vous laisse vraiment affiner votre définition. Voilà, je vais demander à notre frère Denis s'il veut bien circuler avec le micro et j'écouterai vos propositions, pour que ça puisse aussi passer à l'enregistrement. Et là, plus personne ne veut parler. Mais allez-y, hein, donnez le fruit de votre discussion sur ce qu'est la convoitise. Oui, Clément.
La convoitise, c'est vouloir ce qui appartient à l'autre.
C'est vouloir ce qui appartient à l'autre. OK? Quelqu'un veut préciser, ajouter quelque chose? Il s'agit de ne pas redire la même chose, hein, mais Nathan?
Moi, je préciserais juste que c'est désirer ce qu'un autre a et pas nous.
D'accord. Donc, désirer ce que l'autre a et que nous n'avons pas. OK? C'est à peu près ce que tout le monde a évoqué dans ces discussions. Oui, Sylvia.
La convoitise, c'est la. Pardon, bon, c'est désirer et comparer toujours avec mon voisin, mon prochain, et pas savoir remercier ce que j'ai, ce que Dieu m'a donné.
Ok, donc là, on complète, on étoffe la définition. Damaris.
Ça peut être matériel ou immatériel.
Alors, ça peut concerner, donc la convoitise peut concerner ce qui est matériel ou immatériel, oui, évidemment.
Ou bien c'est quelque chose qu'on voudrait se battre pour l'obtenir.
Oui. On est prêt à tout, on veut se battre pour l'obtenir. Voilà, je pense que oui. Simon.
Je disais, c'est dénigrer l'œuvre que Christ a fait pour nous parce que c'est comme si on avait besoin de quelque chose et qu'on ne dise pas que bah, juste son œuvre, ça nous suffit.
Ok. Voilà, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui veuille encore s'exprimer, je pense qu'on... À vous tous, vous avez concocté une définition assez complète et j'irai pas beaucoup plus loin par rapport à ce que vous avez dit. Mais parmi les définitions que j'ai lues, je retiens celle-ci. Nous convoitons lorsque nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons et que nous voulons avoir ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Et ça, que ce soit matériel ou immatériel. Quelqu'un a dit aussi que convoiter, c'est vouloir ce qui n'est pas censé nous appartenir. Un peu comme dans l'exemple où Jésus mentionne le fait de regarder une femme et de la convoiter. Vouloir ce qui n'est pas censé nous appartenir. La convoitise s'exprime donc comme un mauvais désir qui peut conduire à enfreindre d'autres commandements. Nous avons de tristes exemples dans la Bible. Un peu plus tôt dans le culte, on a mentionné le roi David, pour ne citer que lui. Le roi David a péché en convoitant une femme qui n'était pas la sienne, et cela l'a conduit à l'adultère et au meurtre de son mari. Et en réalité, si nous passons le test des 10 commandements, nous échouons tous. Alors, il se peut que nous n'ayons jamais tué, que nous n'ayons jamais volé ou jamais commis d'adultère, mais pourrions-nous dire ce matin que nous n'avons jamais convoité ? En disant à son peuple nouvellement libéré que personne ne convoitera la maison, la femme ou tout ce qui appartient à son prochain, Dieu pose une limite. Pas seulement dans les actes, mais aussi dans les pensées. Il pose une limite au niveau de nos pensées, dans ce qui ne se voit pas extérieurement. Après tout, les autres ne peuvent pas deviner tout ce qui se passe dans notre tête. Et là aussi, dans notre vie intérieure, Dieu a son mot à dire. Pas simplement dans les actes que nous posons, mais aussi dans ce qui se passe à l'intérieur. Et nous pourrions nous dire que par la convoitise, nous ne faisons pas de mal à qui que ce soit. Parce que cela reste finalement à l'état de pensée et de désir secret. Donc je ne fais de mal à personne. Et pourtant, Dieu interdit à son peuple d'avoir en lui de tels désirs portés vers ce qui n'est pas à lui. Le verset de ce matin va nous permettre d'examiner notre cœur. Il met à nu ce que les autres ne savent pas à notre sujet. Il signale qu'étant pécheurs, nous ne sommes pas à l'abri de la convoitise. Et c'est là tout le problème, et on doit l'énoncer comme ça. J'ai un problème, je convoite. Selon l'éducation que nous avons reçue, selon le milieu dans lequel nous avons vécu, selon la profession que nous exerçons, nous avons peut-être été amenés très tôt à nous comparer aux autres. Parfois, ce sont nos parents qui nous ont comparés avec nos frères et sœurs ou avec les enfants des autres parents. Dans le meilleur des cas, cela nous a poussés à faire de notre mieux. Et dans le pire des cas, nous avons développé en nous de la jalousie, de l'envie, lorsque nous voyons d'autres faire mieux que nous, posséder plus que nous, être davantage reconnus. En nous comparant aux autres, nous finissons par avoir du mal à supporter la réussite de notre prochain. Ça cause une douleur. Ainsi, les célibataires vont envier ceux qui ont réussi à trouver quelqu'un et à se marier. Les couples sans enfants vont envier ceux qui ont réussi à en avoir un ou plusieurs. En comparant nos enfants avec ceux des autres, nous envions ces autres parents qui ont des enfants sages et qui réussissent brillamment à l'école. Au travail, nous envions le collègue qui a été mieux distingué que nous, alors que peut-être que nous avons travaillé plus que lui. Dans les études, ce n'est pas toujours celui qui travaille le plus qui s'en sort le mieux. Et cela provoque aussi de l'envie, de la jalousie, une certaine forme de convoitise. Et même dans l'Église, eh bien, ceux qui semblent porter du fruit dans leur service et réussir à tout ce qu'ils entreprennent suscitent malgré eux l'envie chez ceux qui n'en portent pas, ou moins. Il semble que nous puissions difficilement échapper à la convoitise, tant il est facile de nous comparer aux autres. Pourtant, le 10e commandement est limpide. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, et pour résumer tout cela, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Tout ce qui est à l'autre est à l'autre. Et cela s'étend au-delà des biens matériels et de la famille. Parfois, nous voulons au fond de nous les talents de l'autre, les compétences de l'autre, peut-être même son physique avantageux, ou encore sa popularité ou sa sociabilité. Ah, qu'est-ce qu'il est doué pour se faire des amis ! Le problème avec la convoitise est que notre regard sur notre prochain commence à changer. L'autre devient pour nous, d'un coup, un rival, un concurrent qu'il faut dépasser. Secrètement, nous aimerions que les rôles s'inversent, que je puisse avoir ce que l'autre a et que l'autre n'ait rien. Et je dis bien secrètement, parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on avoue, mais secrètement, j'aimerais avoir ce que l'autre a et que lui n'est rien. Oui, la convoitise nous conduit à de terribles pensées à propos de notre prochain. Et c'est pourquoi enfreindre ce 10e commandement, c'est enfreindre aussi le commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous nous focalisons sur ce que nous n'avons pas au lieu d'être reconnaissants pour ce que nous avons. Nous l'avons dit tout à l'heure. Au lieu d'être reconnaissants pour ce que Dieu nous donne, nous nous focalisons davantage sur ce que nous n'avons pas. Et si nous poursuivons le raisonnement, nous finissons par nous dire que Dieu ne nous donne pas assez au regard de ce que les autres ont, que Dieu est tout simplement injuste. Nous finissons même par penser que nous méritons mieux que ça. La convoitise peut nous entraîner jusqu'à remettre en question la bonté de Dieu. Pourtant, le problème ne vient pas de Dieu. Il vient de notre cœur. Convoiter ce qui appartient à mon prochain révèle bien que quelque chose ne tourne pas rond en moi. Si je me rends compte de cela, j'ai clairement besoin de venir devant Dieu, de confesser devant lui mes mauvais désirs, de demander pardon pour cette convoitise mal placée, pour ce mauvais regard que j'ai à l'égard de mon prochain, parce que j'envie sa réussite. Pour ce mauvais regard que j'ai aussi envers lui, Dieu, que je considère comme injuste. Si je me rends compte de cela, j'ai clairement besoin que le Seigneur vienne me transformer de l'intérieur. Que de plus nobles sentiments, que de plus nobles pensées remplacent ces mauvais désirs. Que le Seigneur nous donne la capacité d'obéir à ce qu'il ordonne. Et aucun d'entre nous ne peut obéir au 10e commandement sans son aide. Et pour cela, notre cœur doit continuer d'être réformé, doit continuer d'être changé. Alors allons-nous laisser Dieu œuvrer en nous par son esprit et travailler en particulier cet aspect-là. Allons-nous le laisser nous interpeller ce matin par sa parole. Ce verset dévoile le secret de notre cœur, ce que nous n'osons pas avouer à qui que ce soit. Allons-nous laisser Dieu nous interpeller par sa parole ce matin ? Et vers où sa parole m'oriente-t-elle? Comment puis-je passer d'un cœur qui convoite si facilement à un cœur qui ne regarde pas à ce que l'autre a et que je n'ai pas? Encore autre question, quel est le contraire de la convoitise? Quel est le contraire de l'envie, de la jalousie? Le contraire de tout ça, c'est d'être content avec ce que nous avons. Content avec ce que Dieu nous donne déjà. Oui, vous l'avez bien entendu, le contraire de la convoitise et de l'envie et de la jalousie qu'on peut éprouver à l'égard des autres, c'est d'être content avec ce que nous avons. Et c'est là que j'en viens à cette parole de l'apôtre Paul, j'ai appris à être content. Et même exercice que tout à l'heure, là je vous donne un peu moins de temps, mais avec votre voisin d'à côté, eh bien vous allez réfléchir à ce que le contentement n'est pas. Alors ce n'est pas, j'ai oublié de mettre le pas, mais... Vous avez le droit de vous concerter. Le contentement, ce n'est pas quoi? Voilà, je vois que les cerveaux chauffent. Est-ce que quelqu'un aurait une proposition? Et on va aussi faire circuler le micro. Est-ce que quelqu'un... Voilà, il faut tenter une définition et essayer de dire précisément ce qu'on entend par le contentement, mais en le définissant par la négative. Alors, donc le contentement, ce n'est pas...
Le contentement, ce n'est pas l'ingratitude. Si je suis capable de remercier à Dieu pour tout ce qui est bon et mauvais, j'accepte tout. C'est trop facile de remercier Dieu quand tout est bon, mais quand tout est mauvais, je ne suis pas capable de remercier. Mm-hmm. C'est-à-dire que si j'arrive à remercier Dieu à tout temps et à tout moment, comme on dit la parole, vraiment que j'échappe de ce péché.
Mm-hmm. Merci. Le contentement, ce n'est pas... Samuel, oui.
Le contentement, ce n'est pas s'apitoyer sur soi.
Ok. Oui, là-bas, Laurent.
Le contentement, ce n'est pas s'arrêter de chercher à faire mieux.
Mmh. Non. Ce n'est pas se contenter finalement de là où on en est seulement. Oui. Quelqu'un d'autre encore? Oui.
Ce n'était pas pour définir, mais on a dit le contentement, ce n'est pas non plus nier les difficultés.
Oui. Le contentement, ce n'est pas seulement nier les difficultés. Oui. Enfin, ce n'est pas. Oui. OK. Alors, réfléchissons justement sur... ce sujet du contentement. Le contentement, ce n'est pas se résigner ni effectivement ignorer les difficultés de la vie. Le contentement, ce n'est pas non plus se complaire dans la médiocrité, sans espoir de changer. Le contentement, ce n'est pas non plus se contenter de peu, ni tomber dans l'ascétisme, mais c'est plutôt se contenter de ce que nous avons déjà. Avec la convoitise, notre regard était porté sur ce que l'autre avait ou sur ce que nous n'avions pas. Avec le contentement, notre regard est porté sur ce que nous avons quelle que soit la situation. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul l'écrit aux Philippiens, et on va lire ce texte maintenant, Philippiens chapitre 4, versets 10 à 14. « Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits, car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Ce texte de Philippiens 4, les versets 10 à 14. Dans ce texte-là, Paul évoque le soutien financier qu'il a reçu des Philippiens. Et il est reconnaissant pour cela. Et cette circonstance lui donne l'occasion d'évoquer une leçon de vie qu'il a apprise. En traversant tout type de situation, il a appris avec le Seigneur à être content. Il a appris, ça n'allait pas de soi, il a appris à être content. Il a appris à accepter les moments où il avait moins, comme d'apprécier les moments où il avait plus. Et vous remarquez que ce contentement s'exprime même quand il avait faim. Même quand il était dans le besoin, il a appris à être content. Le verset 13, qui est bien connu et que vous avez sous les yeux, indique comment il a pu tout supporter, comment il a fait pour effectivement être dans le contentement, grâce à celui qui me fortifie. Ce n'est pas une ressource personnelle, intérieure, qu'il s'agit de chercher en nous-mêmes, c'est grâce à celui qui me fortifie. Oui, je peux apprendre à être content grâce à celui qui me fortifie. La force me vient du Seigneur. Et après toutes ces expériences, et on peut imaginer le fait que sa foi a été tant de fois éprouvée, et bien après toutes ces expériences, il dit quand même dans cette lettre qu'il a appris à être content. Et rappelons au passage que Paul était en prison à ce moment-là. Qu'il écrivait tout cela, mais non pas dans une situation confortable. Il a appris à être content. Et je suis reconnaissant envers le Seigneur qu'en 2012, avec les jeunes adultes de mon ancienne église, nous avons été enseignés lors d'un week-end sur le sujet du contentement. C'est un enseignement qui a été précieux pour traverser tout ce que j'ai vécu depuis. Et c'est loin d'être parfait, mais j'ai appris, comme l'apôtre Paul, à être content dans la situation où je me trouve, à être content avec ce que Dieu m'a accordé jusqu'à présent. J'ai compris que le contentement devait être un style de vie pour le chrétien. Là où notre monde, le monde extérieur, est rempli de gens constamment insatisfaits, qui courent après ce qui ne comble pas. Mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons apprendre à être contents. Là où on peut être entouré de gens totalement insatisfaits. Et pourtant, nous vivons dans le même pays, dans la même société, avec un contexte similaire. Mais nous pouvons manifester le contentement. Un autre auteur biblique, celui de la lettre aux Hébreux, énonce aussi ce principe du contentement dans ses dernières exhortations. Hébreux chapitre 13, verset 5. « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. » En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » À des chrétiens qui connaissent, qui rencontrent la persécution, qui ne vivent pas dans le confort, l'auteur ici met en garde contre la cupidité et invite au contentement. Et il rappelle cette promesse que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Les chrétiens peuvent vivre dans le contentement parce qu'ils sont assurés de cette parole de Dieu : « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Avons-nous pris toute la mesure de ce que cette promesse signifie ? Avons-nous confiance dans ce que Dieu dit ici ? Nous pouvons nous contenter présentement de ce que nous avons parce qu'il est toujours là et qu'il ne compte pas nous quitter du regard. Nous pouvons compter sur son omniscience. Il connaît tous nos besoins. Nous pouvons compter sur sa providence. Il donne pour chaque jour ce qui nous est nécessaire. Et en ce moment, nous vivons peut-être dans une certaine insatisfaction par rapport à notre situation. Nous sommes alors tentés de convoiter. Nous sommes alors tentés d'envier les autres qui semblent mieux s'en sortir. Et c'est dans ces moments-là que nous avons besoin de nous rappeler les promesses de Dieu. À celles et ceux qui lui appartiennent, Dieu promet de ne pas les délaisser, de ne pas les abandonner. Même dans le manque, même face à la faim, il promet de ne pas les abandonner. Et croyez-moi, on a des frères et sœurs dans le monde qui connaissent la faim. Mais ils ne sont pas abandonnés par Dieu. Rien ne peut nous séparer de son amour. Cela ne signifie pas que nous serons toujours dans l'abondance ou que nous ne connaîtrons jamais de difficultés, comme certains l'enseignent. Ce n'est pas le sens de cette promesse. Cela signifie plutôt, puisque Dieu sera encore là, que je n'ai pas à me soucier du lendemain. Oui, demain, Dieu sera encore là. Après-demain aussi. Et les jours suivants, et pour l'éternité. Et puisque Dieu sera encore là, avec ce que j'ai maintenant, je peux être content et reconnaissant. Dans sa première lettre à Timothée, l'apôtre Paul évoque ce thème du contentement. Et juste avant les versets que nous allons lire, il dénonce les enseignants qui font du sujet de la foi un moyen de s'enrichir. A contrario, voici ce qu'il dit, 1 Timothée 6, versets 6 à 8, « La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. » Je vous l'ai dit, le contentement est un style de vie pour le chrétien. Vous le lisez comme moi, le contentement est à mettre en relation avec la foi en Dieu. Et la suite du texte avertit au sujet du piège de la cupidité, du piège de l'amour de l'argent. Et Paul termine en rappelant le sort de certains. C'est au verset 10. « Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. » Nous pouvons à cet égard donner l'exemple de Judas, qui par amour pour l'argent a trahi son maître et s'est éloigné très loin de la foi. Et comme plusieurs l'ont souligné avant moi, le contentement chrétien est l'antidote à la convoitise, à toutes sortes d'envies mal placées. Et si nous commencions tout simplement par exprimer notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il nous donne maintenant, pour ce que nous avons maintenant, aujourd'hui. À mon avis, nous avons même plus que simplement la nourriture et le vêtement. Oui, le premier pas vers le contentement, c'est de commencer à reconnaître que ce que nous avons nous vient de Dieu. Si le propre de l'être humain pécheur est de convoiter, le Seigneur est venu pour nous guérir de cela. Il veut nous débarrasser de la convoitise qui entache notre cœur et nous apprendre au cours de notre vie à vivre dans le contentement, à partir de ce qu'il donne. Et cela rappelle cette simple question que Paul pose aux Corinthiens. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de Dieu? Souvenons-nous de l'auteur de tous ces dons. Alors, est-ce que vous êtes prêts à passer un dernier test? Unanimement, vous dites oui. Ce test où il s'agit de compléter un peu la phrase qui va suivre. Dans son livre sur les 10 commandements, Kevin DeYoung suggère de compléter cette phrase. Et vous allez simplement le faire, je ne vais pas demander vos réponses. Mais si seulement j'avais, je serais enfin heureux. Si seulement j'avais, je serais enfin heureux, heureuse. Alors encore une fois, je ne vous demanderai pas de répondre, mais qu'est-ce que vous mettez à la place de l'espace vide? Qu'est-ce qui manque à notre bonheur? Qu'est-ce qui nous fait envie chez les autres? Qu'est-ce que nous convoitons? Qu'est-ce qui a fini par remplacer Dieu? Oui, le problème avec la convoitise, c'est que nécessairement cela nous détourne de Dieu lui-même. Cela nous conduit à enfreindre le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Dans la liste des choses à faire mourir, l'apôtre Paul mentionne, Colossiens 3, verset 5, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Quand nous convoitons, nous faisons de l'objet désiré la source ultime de notre bonheur. Si seulement je tenais entre mes mains cet objet de valeur, si seulement je vivais dans une telle maison, si seulement je conduisais une telle voiture, si seulement j'avais autant d'amis, si seulement j'avais ce boulot de rêve, si seulement j'avais un conjoint qui m'aime. Et dans une certaine mesure, nous faisons tous face à des frustrations et à une certaine insatisfaction chronique. Après tout, nous vivons dans un monde déchu où tout est vanité. Et désirer une meilleure situation ne pose aucun problème. Le problème, c'est plutôt la manière de le désirer. Nos intentions ne sont pas toujours pures. Dans quelle mesure ce que je désire le plus a pris la place de Dieu? Nous pouvons le voir parce que nous pensons plus à ce que nous combattons qu'à lui. Nous pouvons le voir quand nous passons moins de temps avec lui, quand nous avons moins envie d'être avec lui. Donc ça veut dire que nous avons envie d'autre chose. Nous pouvons le voir quand ce que nous demandons dans la prière a plus d'importance que celui à qui nous adressons notre prière. Oui, on peut revêtir tout cela d'un semblant de piété et se dire « je vais demander à Dieu des choses ». Mais dans la mesure où ce que nous demandons commence à avoir plus d'importance que celui à qui nous nous adressons, c'est là qu'il y a un problème. Et c'est subtil, parce que nous pouvons persévérer longtemps dans quelque chose qui finalement est une idole pour nous. Oui, Dieu nous encourage à prier pour nos besoins, à lui en parler, mais ce que nous demandons ne doit jamais devenir notre Dieu. Non, notre Dieu, d'après Exode 20, c'est celui qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage, un Dieu capable de délivrer. Notre Dieu, c'est le seul qui mérite l'adoration et une entière consécration de notre part. Il a le droit de réclamer l'exclusivité. Et notre Dieu, c'est celui qui a tout mis en œuvre pour que par la mort et par la résurrection de Jésus, nous parvenions au salut, à la vie éternelle avec lui. Notre Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est celui qui ne nous abandonnera pas, parce que nous sommes son peuple, parce que nous lui appartenons. C'est pourquoi les chrétiens font mourir ces mauvais désirs, cette soif de posséder qui est clairement une idolâtrie. En tant que nouvelle créature, les chrétiens appartiennent à Christ et leur vie est tournée vers lui. Et c'est suffisant. Avons-nous saisi cette parole de Jésus? Jean chapitre 6, verset 35. C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le Seigneur en qui nous croyons est réellement le seul à pouvoir apaiser cette faim, cette soif. Et c'est une image pour dire qu'il est le seul à pouvoir nous combler, le seul à pouvoir nous rassasier, le seul à pouvoir nous donner la vraie vie. Non pas premièrement à partir de ce qu'il donne, mais à partir de lui-même. Oui, en Christ, nous avons des bénédictions incroyables. Nos péchés sont pardonnés. Notre salut est assuré. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons des frères et sœurs avec qui nous formons un même corps. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui œuvre en nous et qui nous transforme pour nous faire ressembler davantage à Jésus. Oui, nous avons toutes ces bénédictions incroyables. Mais ne perdons pas de vue l'auteur de notre salut et de la grâce qu'il nous a accordée. Pourrions-nous dire ce matin, je suis vraiment satisfait quand je suis en communion avec le Seigneur? Au-delà de tes relations, au-delà de ce que tu possèdes, est-ce que le Dieu qui t'a sauvé fait toute ta joie? Fait ton bonheur suprême. Et je terminerai avec le psaume 73. Ce psaume qui fait partie de ces textes qui m'ont durablement marqué. Dans ce psaume, le psalmiste qui s'appelle Asaph avoue être jaloux des méchants qui réussissent, qui s'enrichissent. Asaph envie ceux-là même qui n'ont aucun respect pour Dieu. Et pourtant, tout leur réussit. Il en vient à se dire, au verset 13 de ce psaume 73, « C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. » Dans notre langage actuel, nous dirions « Sert-il à quelque chose que je sois un bon chrétien, une bonne chrétienne, si même les méchants réussissent ?» Puis Asaph s'est souvenu de ce qui attend finalement les méchants. Dieu ne prépare rien de moins que leur ruine. Et au bout du compte, ces méchants n'en sortiront pas indemnes. Et Asaph reconnaît qu'il a raisonné comme un ignorant, comme un insensé devant Dieu. Et voici ce qu'il confesse au verset 25 à 28. « Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. » Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis en silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Alors, il y a une dernière phrase qui ne fait pas partie du texte. Puis-je ce matin dire que pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Oui, pour pouvoir respecter le dixième commandement, tu ne convoiteras pas, il faut aussi respecter le premier. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Si ton cœur s'est égaré au point que ton bonheur se trouve ailleurs qu'en Dieu, alors reviens à lui. Il est le seul auprès de qui tu n'auras jamais faim ni soif. Il est le seul qui comble profondément et véritablement. Reviens à cette communion avec le Dieu qui t'aime et goûte de nouveau combien il est bon. Prends de nouveau le temps d'être devant Dieu. Chaque jour de cette nouvelle semaine. Cherche-le. Continue de le connaître à travers sa parole. Et si tu veux un point de départ, médite sur ce psaume 73 durant cette semaine. Prends le temps de réfléchir aux paroles du psalmiste que nous avons lues. Oui, qui d'autre ai-je au ciel ? Et Kevin DeYoung écrit à la fin de son chapitre sur le dixième commandement, en parlant de Dieu, « Il ne vous a pas oublié. Vous n'êtes pas seul. Comment pouvez-vous affirmer que vous n'avez rien ? Vous l'avez. Lui. » Au fond, c'est ça qui importe. Nous l'avons, lui, notre Dieu, le Dieu qui nous rend contents. Et tout le reste passe au second plan. Tout ce qui a tellement d'importance à nos yeux passe au second plan, devant lui. Oui, comment pouvons-nous affirmer que nous n'avons rien ? Et dans les moments où nous convoitons, parfois nous nous exclamons de cette manière-là, comme si nous n'avions rien, mais nous l'avons lui. Et c'est déjà suffisant, amplement suffisant. À l'issue de notre étude sur les 10 commandements, nous retenons que nous ne pouvons pas détacher les commandements les uns des autres. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de respecter certains commandements et de négliger les autres. Le dixième commandement qui interdit la convoitise est en lien direct avec l'amour pour le prochain et l'amour pour Dieu. Et comment résister à la convoitise ? En un mot, par la foi. En comptant sur le Dieu qui nous connaît si bien et qui promet de ne pas nous abandonner. En apprenant à être content avec ce que nous avons présentement, avec ce que Dieu nous a déjà donné. Et en revenant à lui, pour nous rendre compte à nouveau qu'il nous suffit, que sa grâce nous suffit, et que nous approcher de lui, c'est là que se trouve notre plus grand bonheur. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, tu nous commandes de ne pas convoiter quoi que ce soit qui appartienne à notre prochain. Mais au contraire, de pouvoir être reconnaissant, content avec ce que nous avons, avec ce que tu nous as donné. Et qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu de toi ? Et merci parce qu'au-delà de tout ça, lorsque nous regardons à l'auteur de tous ces dons, lorsque nous voyons à celui qui a tout fait pour notre salut, nous ne pouvons que nous satisfaire de t'appartenir, de savoir que tu es là, présent, que tu ne nous abandonneras jamais. Oui, telle est ta promesse, une promesse que tu ne peux pas rompre. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que, oui, nous voulons apprendre de toi. Nous voulons apprendre à ne pas convoiter. Nous voulons apprendre à ne pas envier celles et ceux qui semblent réussir, y compris celles et ceux qui ne te connaissent pas. Oui, parfois le succès de celles et ceux qui ne te connaissent pas peut nous faire envie aussi. À quoi bon ? Parfois nous pouvons raisonner, à quoi bon te servir ? À quoi bon être un bon chrétien, une bonne chrétienne ? Mais garde-nous d'avoir de telles pensées, Seigneur, et qu'au contraire, nous puissions continuer d'espérer en toi, continuer de nous appuyer sur le fait que tu es le Dieu providentiel et que tu continueras de pourvoir à nos besoins, même dans les situations les plus critiques. Tu ne nous abandonneras pas. C'est la promesse que nous avons reçue de toi et que nous croyons fermement. Au nom de Jésus. Amen.